Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravis de vous retrouver en ce mercredi 12 janvier 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Le crime d'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens ne restera pas impuni. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, Amir Abdollahian a rencontré l'émir du Qatar pour parler sur la levée des sanctions. Les étapes cruciales commencent. Et puis Riyad a recours au cinéma américain pour redorer son blason et justifier ses bombardements. Le gouvernement du Salut national au Yémen, dirigé par Ansar Allah, le condamne. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à Doha. Il a fait part de la rencontre avec l'émir du Qatar ainsi que son homologue qatari hier, mardi, pour discuter des questions bilatérales, internationales et régionales. Lors de cette rencontre, le ministre iranien des Affaires étrangères a transmis les salutations du président Raisi et a examiné les derniers développements dans les relations entre les deux pays dans divers domaines politiques, commerciaux, sécuritaires et économiques et a souligné les domaines et capacités existants pour l'expansion des relations entre les deux pays dans le domaine des interactions économiques. En soulignant l'échange de délégations au plus haut niveau des deux pays, pour des consultations entre les deux pays, Amir Abdollahian a également expliqué l'approche du gouvernement Raisi concernant les relations avec ses voisins. Les derniers développements des pourparlers de Vienne sur la levée des sanctions oppressives, les questions liées à l'Afghanistan et au Yémen figuraient parmi les autres questions soulevées par le ministre iranien des Affaires étrangères lors de la réunion. Et l'émir du Qatar a également expliqué le point de vue de son pays sur ces questions. Pour parler sur la levée des sanctions, les étapes cruciales commencent. Le principal négociateur iranien à Vienne, Ali Borelli Kani, est arrivé ce mardi après-midi à l'hôtel Cobourg, autrichien, pour poursuivre des consultations diplomatiques intensives après des vifs entretiens avec les membres du groupe 4+1 tenus hier sous fond de rencontres bilatérales et multilatérales. Selon le correspondant de l'IRNA sur place, Ali Borelli a rencontré Henrik Mora, le coordinateur de la commission mixte, pour sa première réunion. Des experts de la République islamique d'Iran se sont rendus aussi à l'hôtel pour s'entretenir avec des représentants des 4+1, à savoir Chine, Russie, France, Allemagne et Royaume-Uni, sur la question de la levée des sanctions, et les réunions à ce niveau se poursuivent. La réunion du mardi faisait partie du 8e cycle des pourparlers sur la levée des sanctions et il semble que les pourparlers aient atteint une étape critique et décisive. Le tout dernier round a débuté le lundi 27 décembre 2021 et les pourparlers ont connu des progrès palpables selon les délégations négociatrices. mais on entend dire qu'au malgré les avancées enregistrées dans les dialogues, des exigences maximalistes et parfois même des tentatives de repousser les textes proposés par Téhéran se poursuivent. Et cela a été l'une des raisons de la lenteur des négociations. Pas d'initiative chez les partis d'en face, les Occidentaux tergiversent à Vienne, déplore Amir Abdollahian. L'Iran ne voit toujours pas de nouvelle initiative de la part de l'Occident dans les pourparlers de Vienne. Il ne paraît pas qu'ils soient aussitôt prêts à revenir à leurs engagements. Nous pensons que les Occidentaux tergiversent encore sur cette question, a déploré le chef de la diplomatie iranienne. Lors d'une interview accordée à la chaîne internationale Qatari Al Jazeera, le ministre iranien des Affaires étrangères a répondu à diverses questions, dont notamment sur les pourparlers de Vienne, le dialogue irano-saoudien, la crise yéménite, la visite du président Raïsi en Russie, etc. Notre impression est que les négociations sont sur la bonne voie, a déclaré le très haut diplomate, avant d'indiquer. Les avancées sont dues aux initiatives que la République islamique d'Iran a mises sur la table. Cela aide la partie d'en face à parvenir à un bon accord si elle a vraiment des intentions et une volonté sérieuse. Lorsque nous parlons d'un bon accord, cela signifie un accord dont toutes les parties en seront satisfaites. Atteindre un tel accord nécessite le respect par toutes les parties signataires de leurs obligations liées au plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015, PGAC. Est-ce qu'un tel accord est réalisable à court terme? Nous pensons que s'il y a de bonnes intentions et une volonté sérieuse de la part de l'Occident, il serait possible, a-t-il dit. Dans les messages envoyés par les Américains à l'adresse de l'Iran, ils se disent décidés à revenir au PGAC et à remplir leurs engagements. Ces paroles qu'on ne cesse d'entendre lors des rendez-vous avec nos interlocuteurs 4+1, une fois concrétisées, peuvent nous conduire à un bon accord, a insisté le ministre. Amir Abdollahian a réitéré sur le fait que les négociations pour tenter de sauver l'accord multilatéral en agonie, qui ont repris il y a quelques semaines à Vienne, doivent, comme le réclame Téhéran, aboutir à la levée vérifiable des sanctions américaines et à la garantie que Washington réintègre le pacte sans le violer de nouveau. Le ministre iranien des routes et du développement urbain, Rostam Rossemi, a déclaré que la fin de la guerre en Syrie marquait le début d'une nouvelle ère de relations économiques entre les deux pays. Rossemi dirige une délégation économique et politique en visite de 3 jours en Syrie. Il rencontrera le président syrien Bachar Assad et d'autres hauts responsables. Le ministre iranien a déclaré que ses entretiens avec les responsables syriens couvrirait divers domaines, notamment l'industrie et la construction. À son arrivée à Damas, M. Rossemi a été accueilli par le ministre syrien de l'économie et du commerce. Mohammad Samer al-Khalil a déclaré que son pays cherchait une coopération étendue avec Téhéran. L'Iran a été un contributeur majeur aux efforts de reconstruction de la Syrie ces dernières années, alors que le pays lutte pour sortir des ruines de la guerre qui a dévasté son infrastructure économique. La Syrie dénonce les États-Unis pour leur politique envers le pays arabe. Le ministre des Affaires étrangères, Faisal Megdad, a déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas la démocratie dans son pays et qu'il y pillait juste des ressources. Megdad a accusé les États-Unis d'interférer dans les affaires intérieures de la Syrie et de tenter de renverser le gouvernement légitime en place. Le très haut diplomate syrien a également critiqué Washington pour avoir imposé des sanctions unilatérales à son pays. Il a déclaré que les sanctions ont entraîné la mort d'enfants, de femmes et de personnes âgées syriens et que tout cela pour assurer les intérêts intéressés des États-Unis. Megdad a tenu ses déclarations lors d'une interview avec une chaîne chinoise. Dans un geste interventionniste, les États-Unis maintiennent quelques 900 soldats en Syrie malgré la forte opposition de Damas qui qualifie cette présence d'illégale. Les médias syriens disent que les forces américaines, appuyées par les combattants armés kurdes, ont construit une raffinerie de pétrole dans la province de Hasaka, dans le nord-est, riche en pétrole. Un clip saoudien qui prétendait montrer la contrebande de missiles balistiques iraniens au Yémen s'est révélé être d'anciennes images américaines. L'Arabie saoudite et une coalition d'agression d'alliés ont été accusés d'avoir présenté des images d'un documentaire sur la guerre en Irak comme preuve d'une prétendue contrebande de missiles dans la ville portuaire et stratégique yéménite d'Hodeïda, sous contrôle du mouvement populaire Ansar Allah. Réagissant à l'aveu, le gouvernement de salut national du Yémen l'a décrit comme le plus grand péché commis contre le peuple yéménite, avec le soutien des États-Unis. La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a publié les images samedi, affirmant que cela fait du port yéménite d'Hodeïda une cible légitime. L'armée yéménite n'a pas tardé à réagir. Il a déclaré que la vidéo était tirée d'un film documentaire américain sur l'Irak et n'avait rien à voir avec le Yémen. Ces dernières semaines, Riyad et ses alliés ont intensifié leur campagne aérienne meurtrière contre le Yémen. L'aveu a été fait par un porte-parole de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, le général de brigade Turki al-Maliki, lors d'une conférence de presse samedi. La presse a été diffusée par le diffuseur public Al-Saoudia avec des images toujours disponibles sur sa chaîne YouTube. Le ministère yéménite des Affaires étrangères a qualifié de sans fondement et de faux les propos tenus par le porte-parole de la coalition au sujet de la militarisation des ports de Hodeïda et de Salif. Samedi, la coalition avait prétendu que le ciblage des deux ports était justifié car les yéménites les utilisent comme base militaire. Il a également publié des images à l'appui montrant prétendument des armes stockées dans les ports, mais l'armée yéménite affirme que la vidéo est tirée d'un film documentaire américain sur l'Irak et n'a rien à voir avec le Yémen. La guerre et le blocus menés depuis des années par les Saoudiens ont mis la vie des millions de yéménites en danger et ont créé ce que l'ONU a décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Le crime d'assassinat de scientifiques nucléaires ne restera pas impuni. Se référant au 10e anniversaire du martyr du Mostafa Ahmadi Roshan, le vice-ministre iranien des Affaires internationales pour la justice et secrétaire du Haut Conseil des droits de l'homme de la République islamique d'Iran a déclaré « Le crime d'assassiner des scientifiques nucléaires iraniens ne restera pas impuni ». Aujourd'hui marque le 10e anniversaire du martyr de l'un des héros de mon pays, Mostafa Ahmadi Roshan, un scientifique qui est sur la voie de la promotion et de la localisation des connaissances, a écrit Kazem Ghali Bobadi sur sa page Twitter. La paix nucléaire a été une lutte inlassable. Le crime d'assassinat de scientifiques nucléaires ne restera pas impuni en tant qu'exemple de violation flagrante des droits de l'homme, a-t-il dit. Le scientifique martyr Mostafa Ahmadi Roshan est né le 8 septembre 1979 dans la ville de Hamedan. Il a commencé ses études à Hamedan et après avoir passé le collège et le lycée en 1998, il est entré à l'université de technologie de Sharif. Il a commencé ses études en génie chimique. En 2002, il obtient un baccalauréat en génie chimique et poursuit ses études dans le même domaine au niveau de la maîtrise. Après quoi, il entre au programme de doctorat en nanotechnologie. Le martyr Mostafa Ahmadi Roshan, après avoir obtenu une licence en génie chimique, est entré à l'Organisation de l'énergie atomique avec ses capacités, malgré d'autres opportunités d'emploi en même temps. Cet honorable martyr a été martyrisé le 11 janvier 2012 alors qu'il se rendait à son travail, rue Shahid Golnabi, place du Livre, devant la faculté des sciences de la communication de l'université Allameh Tabatabai et a été martyrisé. Le 12 janvier 2022 marque également le 12e anniversaire du martyr de Masoud Ali Mohammadi, un autre éminent iranien qui a travaillé pour promouvoir et localiser les connaissances nucléaires pacifiques de l'Iran. La mort en martyr de Massoud Ali Mohammadi, un théoricien iranien des champs quantiques et un physicien des particules élémentaires et un éminent professeur de physique élémentaire au département de physique de l'université de Téhéran, a eu lieu le 12 janvier 2010. Ali Mohammadi était le premier étudiant diplômé de doctorat en physique de l'université de technologie de Sharif. Il a publié 53 articles et lettres dans des revues académiques évaluées par des pairs et écrit et traduit plusieurs manuels de physique. L'assassinat de cet éminent scientifique nucléaire iranien représente l'exemple clair du terrorisme d'État dans lequel les traces du régime israélien sont évidentes. Empêcher l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et l'assassinat ciblé de scientifiques iraniens par des éléments affiliés au régime sioniste traduit à la violation du droit au développement et à l'autodétermination d'un pays, est un exemple de violation des droits de l'homme et un symbole du terrorisme. Le droit à la vie est l'un des droits fondamentaux de chaque individu et en aucun cas le droit à la vie, en particulier aux élites d'un pays, ne peut lui être retiré. La règle de la privation arbitraire de la vie n'est pas limitée au territoire d'un État et tous les États sont toujours obligés de respecter et d'observer ces règles en tout temps et en tout lieu. Mais le droit à la vie a toujours été ignoré par le régime sioniste au cours des dernières années et en relation avec les citoyens de différents pays. Le crime d'assassinat de scientifiques nucléaires ne restera pas impuni par la République islamique d'Iran en tant qu'exemple de violation flagrante des droits de l'homme.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 8 janvier 2022. Depuis une semaine, le Kazakhstan, le plus grand pays d'Asie centrale, est confronté à des émeutes. Différentes villes de ce pays, et notamment sa capitale économique, Almaty, en effet, ont été le théâtre des affrontements violents entre les forces de sécurité et des émeutiers. Des dizaines de personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont été arrêtées. Une force régionale de maintien de sécurité dirigée par la Russie a été envoyée pour aider le gouvernement kazakh à rétablir le calme et la sécurité. La République islamique d'Iran a appelé en effet le gouvernement et les manifestants en effet à engager le dialogue pour résoudre la crise conformément aux intérêts nationaux de ce pays. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a également mis en garde contre les tentatives étrangères d'exploiter en effet les troubles et de s'ingérer dans les affaires intérieures du Kazakhstan. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces émeutes, en effet, au Kazakhstan, ses principaux enjeux et, bien entendu, les réactions des différentes parties et les répercussions, en effet, de ces émeutes et de ces troubles dans la région d'Asie centrale. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Moscou Fabrice Beurre, expert pour l'ONG ODE. Monsieur Beurre, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur Presse TV.
Alors, comme vous le savez très bien, Monsieur Beurre, depuis une semaine, le Kazakhstan est le théâtre des émeutes sans précédent. De violents affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité et des émeutiers. Alors, deux questions pour commencer, M. Bauer. Est-ce que là, il s'agit des émeutes réellement spontanées? Et puis, à qui profiteraient ces troupes-là?
Il s'agit d'une opération de déstabilisation de l'Asie centrale. Bon, c'est évident. Il faut voir la position géographique du Kazakhstan, qui est sur le flanc sud de la Russie. Rappelons qu'il y a à peu près presque 7000 km de frontières communes. Donc, c'est une évidence que c'est un peu, on va dire, le ventre mou de la Russie. Et puis, bon, mettons-nous en place. Hein. Après la perte de l'Afghanistan, les Américains ne sont pas partis sans stratégie et ils n'ont pas fait une croix sur l'Asie centrale. Et ce qu'ils ne peuvent contrôler, ils y mettent le chaos. Hein. C'est leur stratégie habituelle. Mais ça peut pas se déclencher du jour au lendemain. On voit bien que c'est un plan préparé de longue date. Il y a le financement habituel de la société civile, comme on dit, sur les valeurs américaines, puisque maintenant c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent plus valeurs démocratiques, ils disent valeurs américaines. Et la Turquie, qui là encore a joué le rôle de cheval de Troie d'une atolante, puisque depuis plusieurs années elle est assez présente dans beaucoup de domaines, et pas seulement économique, dans la région. Et la stratégie donc est claire, elle suit le classique d'une révolution de couleurs avec une variante proche orientale, c'est-à-dire l'implication de groupes terroristes, voire même de groupes djihadistes. Alors les manifestations qui sont dites pacifiques, qui dégénèrent rapidement en affrontement avec la police et puis après en affrontement armé, voilà la réalité aujourd'hui au Kazakhstan. Alors attention, je ne dis pas que les revendications populaires premières n'avaient pas lieu d'être et n'ont pas de raison. D'ailleurs, le gouvernement lui-même l'indique qu'il est pro-dialogue, mais après le rétablissement de l'ordre. Mais ces revendications ont été manipulées pour des objectifs tout à fait évidemment différents. Et aujourd'hui, on est bien en face à des groupes terroristes dont l'objectif, c'est le renversement de l'État et pas soutenir les revendications sociales et économiques des manifestants kazakhs. Alors maintenant, cela étant dit, la crise, et je vais terminer là-dessus, la crise est à plusieurs variables. Parce que dans celle-ci, il y a peut-être également, semble-t-il, des affrontements entre différents clans du pouvoir. Et on peut imaginer une lutte d'influence à l'intérieur du pays et que cette lutte avec les plusieurs pôles à l'intérieur du Kazakhstan a été instrumentalisée depuis l'extérieur pour mener le coup d'État, les tentatives de coup d'État que nous avons vues et qui est anti-russe en tout cas, parce qu'il faut se rappeler que depuis que le Kazakhstan se rapproche, c'est après, approximativement depuis 2014 d'ailleurs, se rapproche de l'Occident, il y avait une politique des petits pas à l'intérieur anti-russe à l'intérieur du Kazakhstan qui a été en cours, puisque comme dérivatif des problèmes économiques et sociaux, évidemment, on pointait toujours du doigt de la Russie. Et là, ma conclusion pour votre question, oui, nous sommes bien en face à une politique de déstabilisation, une tentative de révolution de couleur instrumentalisée par l'extérieur avec un travail de sape américain et du cheval de Troie turc qui démontre une fois de plus qu'il est toujours, qui poursuit toujours une politique anti-russe de par le monde. Mais on voit aussi pour le Kazakhstan qu'une politique anti-russe dans les pays de l'ancienne Union soviétique aboutit toujours à une politique de chaos, une politique de destruction et une politique de misère. Il suffit de voir ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Ukraine. Et c'est la tentative et la volonté en tout cas du NATO Land de reproduire la même chose au cœur du Kazakhstan, au cœur de l'Asie centrale du Kazakhstan, puisque en même temps c'est sur les nouvelles routes de la soie. Et la Chine étant également évidemment un adversaire des États-Unis, ils essayent de faire une pierre deux coups.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Bauer. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Michel, Monsieur Bauer l'a rappelé, il s'agit d'un plan préparé de longue date qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de déstabilisation de l'Asie centrale. Alors, pour vous, quelle est la réalité en effet des récentes évolutions depuis une semaine? Et puis, à quels changements géostratégiques on assiste après les défaites successives des États-Unis et de l'OTAN en Irak, en Syrie, en général au Moyen-Orient?
C'est la contre-offensive de l'impérialisme américain et c'est lié à la géopolitique internationale. C'est la même semaine où l'armée russe est déployée aux frontières de l'Ukraine pour faire face à la menace de l'OTAN et où les Russes se déploient au Mali qu'intervient les éléments du Kazakhstan. C'est une révolution de couleurs transformée en agression terroriste et une fois de plus avec la vieille complicité du vieux complice des États-Unis qui est la Turquie d'Erdogan, puisqu'ils ont abonné des djihadistes venus d'Idlib qui ont participé à l'assaut des forces de police. Il faut constater quelque chose, c'est que depuis une dizaine d'années, les révolutions de couleur made in USA ne sont plus des éléments pacifiques menés par des foules pacifiques et civiles, comme on le raconte sur Wikipédia, l'encyclopédie des barbouzes de l'OTAN, mais on transforme immédiatement les manifestations pacifiques qui sont présentées comme telles dans les médias de l'OTAN, on les transforme en actes d'agression terroriste. En février 2011, à Benghazi, immédiatement, les manifestations de civils avaient été transformées dans des attaques terroristes avec des staffers venus de Pologne, on le sait aujourd'hui, et où des policiers avaient été pendus. C'était la même chose au Kazakhstan. On a passé à tabac des policiers, on les a déplacés nus dans les rues et deux d'entre eux ont même été décapités par les terroristes venus de Syrie. Voilà le vrai visage des États-Unis. Il s'agissait en plus d'un test, à mon avis. Il y a une série de négociations entre la Russie et l'OTAN qui vont se dérouler du 10 au 13 janvier. Manifestation à Vienne avec les États-Unis, manifestation avec l'OTAN et manifestation avec l'OSCE. Poutine a dit à l'avance, la dernière semaine de 2021, que la Russie émettait, plaçait des lignes rouges qu'il s'agissait de ne pas dépasser. C'est une façon, je pense, les événements du Kazakhstan, de tester la volonté de la Russie. La Russie a répondu avec une magnifique démonstration de force. En 48 heures, les forces de l'OTSC sont intervenues au Kazakhstan. Et on se rappelle qu'elles étaient prêtes, puisque en 2019 et 2020, de grandes manœuvres avaient eu lieu avec les différents pays de l'OTSC, dont le Kazakhstan, pour prévenir précisément la tentative d'une révolution de couleur pour renverser l'ordre politique et institutionnel. Aujourd'hui, la Russie a démontré qu'elle était une armée puissante, capable de se masser. Il y a plus de 100 000 hommes actuellement aux frontières de l'Ukraine, capables de se déployer au Mali malgré toutes les campagnes occidentales contre le soi-disant groupe Wagner et en même temps de déployer en 48 heures des troupes au Kazakhstan. C'est donc la chute de l'OTAN qui continue.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, M. Michel. Monsieur Bohr, Monsieur Michel a évoqué le contexte ukrainien pour de nombreux analystes. L'Occident, au lieu d'engager une confrontation directe avec la Russie sur l'Ukraine, a préféré de changer de terrain de jeu afin d'exercer une pression médiatique et politique sur la Russie. Cette fois, en effet, au Kazakhstan. D'abord, quelles seront les répercussions, en effet, de cette nouvelle manœuvre occidentale en Asie centrale et puis, et surtout, quelle sera la réaction à long terme de la Russie?
Les Américains, comme toujours, bien qu'ils aient des plans à long terme, la preuve, ce genre de révolution de couleur, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça se prépare sur plusieurs années. Alors, rappelez-vous la déclaration de Nuland sur l'Ukraine qui avait dit que ça faisait plusieurs années qu'ils avaient investi 5 milliards de dollars. Ça avait été dit publiquement, donc voilà quelle est leur politique. Mais ils ont un défaut toujours, c'est d'arriver à croire à leur propre propagande et le côté qui existe d'enfants gâtés chez les Américains, de ne pas voir le résultat, de ne pas comprendre qu'on ne puisse ne pas les aimer. Et le résultat de cette politique, c'est que si ceux en Asie centrale fricotaient un petit peu avec l'Occident en se disant les Russes sont un peu trop présents, les Chinois également, en oubliant que ce seront toujours leurs voisins, les Américains sont bien loin, je pense qu'ils commencent à comprendre, ou certains ont déjà compris, que lorsque on serre la main de l'aide amicale et fraternelle que proposent encore aujourd'hui d'ailleurs les États-Unis et au Kazakhstan, c'est assez amusant, ça finit toujours en coup d'État, ça finit toujours en révolution orange, ça finit toujours en massacre, ça finit toujours dans le chaos. Je ne vais pas vous citer tous les pays de ces dernières années. Donc ça, c'est une des conséquences qu'il va y avoir sur les pays d'Asie centrale, c'est de comprendre que leur voisin sera toujours la Russie, et que la Russie est présente, et que la Russie intervient dans le cadre des accords qui sont signés, dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective de l'OTCS, et que donc la Russie est un partenaire fiable, à la différence des États-Unis, qui ont toujours mis en place une politique de fourberie pour éviter de parler trivialement. Et donc nous avons aujourd'hui ce résultat sur l'Asie centrale. Maintenant, par rapport au front occidental, nous avons, Luc Michel l'a indiqué, cette politique américaine de pousser jusque dans les retranchements la Russie, mais comme Poutine l'a indiqué, cette fois-ci, nous sommes chez nous. Nos deux pieds sont chez nous. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. Nous sommes à la porte de notre maison. Et ils essayent encore et encore, évidemment, de pousser. Mais vous savez, aux États-Unis, il y a deux tendances. Vous avez la tendance qui veut, pas s'entendre, mais neutraliser une entente avec la Russie pour arriver à une forme de neutralité afin que la Russie ne s'immisce pas dans la lutte qu'ils mènent contre la Chine. Mais en même temps, ils peuvent s'empêcher toujours de revenir à leurs fondamentaux de la politique néoconservatrice, leur vision géopolitique de la chose qui est le fondement de leur politique internationale, à savoir qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Et donc nous avons aujourd'hui toujours une politique, bien évidemment, de confrontation vis-à-vis de la Russie, d'encerclement, et ce qui se passe en Asie centrale, c'est un des éléments supplémentaires de cet affrontement. Et donc nous avons aujourd'hui, nous sommes dans avec les négociations qui arrivent demain, nous avons une confrontation, chacun essaye de montrer ses muscles, mais les Américains, en montrant leurs muscles, franchissent des lignes rouges. Sauf que la Russie, aujourd'hui, les lignes rouges, elle les a bien indiquées et elle réagit aujourd'hui et d'une manière prompte. On a vu 24 heures pour, même pas quelques heures, suite à la demande du président du Kazakhstan, il y a une réponse. Et même pas 48 heures après, il y avait déjà donc des soldats de l'OTSC qui étaient présents en soutien dans la lutte contre le terrorisme. Mais nous voyons bien, pour conclure votre question, nous voyons bien aujourd'hui, c'est encore plus visible, il n'y a que les médias de l'OTAN qui peuvent, avec leur propagande russophobe haineuse, s'auto-intoxiquer sur la chose. Mais la vraie communauté internationale, celle qui ne regarde pas les médias de Paris et de Washington, ou de Berlin, ou de Londres, voit bien une chose. Partout où s'immiscent soit l'armée américaine, soit les ONG américaines, soit les pays du bloc américain du NATO-Land, il n'y a comme conséquence toujours que la déstabilisation, le chaos, les coups d'État, et donc un avenir pas très pacifique, où ils mettent les pieds à chaque fois, il n'y a que le malheur des peuples. Et comme en Syrie, comme aujourd'hui en Afrique, comme aujourd'hui en Asie centrale, la Russie démontre que son action dans le cadre international est là dans la lutte contre le terrorisme et comme axe géopolitique alternatif contre le bloc occidental. Nous avons bien aujourd'hui un bloc de l'Est, un nouveau bloc de l'Est, le bloc eurasien, qui lutte contre le terrorisme pour trouver une nouvelle stabilisation au niveau géopolitique. Et ce bloc aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est votre pays, l'Iran. Et dans le cas précis, dans l'actualité actuelle, c'est bien la Russie qui démontre qu'elle est la tête de proue de ce bloc de l'Est, de ce nouveau bloc de l'Est, de ce bloc eurasiatique, contre les menées agressives et impérialistes du bloc occidental, du bloc américain.
Merci encore, M. Bauer. Une toute dernière question à M. Michel. Monsieur Michel, M. Bauer l'a rappelé, l'Occident a toujours poursuivi et poursuit aujourd'hui encore une politique de confrontation à l'égard de la Russie. Et bien sûr, aujourd'hui, il paraît que le conflit est transplanté en Asie centrale et plus précisément eu égard au récent développement au Kazakhstan. Qu'est-ce qui va sortir de ce nouveau terrain de confrontation?
Écoutez, la confrontation est devenue mondiale puisqu'elle s'est également déplacée en Afrique et elle s'est également déplacée en Amérique latine grâce à votre pays, au Venezuela, au Nicaragua et également à Cuba et également avec les Russes également. Mais ce que nous constatons, c'est que un cycle de 20 années de révolution de couleur made in USA vient de se terminer. Fabrice et moi, nous connaissons bien ces révolutions de couleur puisque nous les combattions déjà lors de la première d'entre elles à l'été 2000, à l'été 2000 à Belgrade, en Yougoslavie. À l'époque, c'était des rouleaux compresseurs qui emportaient tout. En Ukraine, en Géorgie, en Asie centrale, à Haïti, etc. Partout, rien ne pouvait s'opposer à ce rouleau compresseur. C'est terminé aujourd'hui. Le fait de déclencher une révolution de couleur et même parfois d'installer un gouvernement pro-américain ne garantit plus la prise en compte d'un pays. Les gouvernements pro-américains du Soudan issus d'une révolution de couleur initiée par Donald Trump en 2019 a été renversé il y a quelques semaines par des généraux liés à la Russie. On constate aujourd'hui au Kazakhstan que c'est raté complètement. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Donc maintenant, les Américains doivent s'habituer simplement, c'est que le bloc de l'Est est en capacité de combattre les révolutions de couleur et même de combattre les agressions de l'OTAN, notamment avec ce nouveau mode de faire la guerre que l'Iran en Liban a inventé en 2010 et la Russie en Ukraine, précisément en 2013, qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, elle combat la guerre classique de l'OTAN. Il y a une véritable panique d'ailleurs des pays de l'OTAN et des États-Unis pour cette guerre hybride qui est devenue un fonds de commerce de leurs stratèges, de leurs think tanks, de leurs universitaires. Ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, leurs adversaires ont des capacités de s'opposer à eux d'une façon décisive, comme le Kazakhstan est en train de le démontrer.
Donc, dans un sens plus large, Monsieur Michel, ce bloc de l'Est et de l'Ouest, ces confrontations ont tendance à se poursuivre éternellement, avec cette différence que seulement les terrains de jeu changent dans cette politique de confrontation entre la Russie et les États-Unis.
Les terrains de jeu ne changent pas tellement. Vous savez, quand vous prenez le cas de l'Afrique, les Américains du think tank Jean-Paul Strasbourg sont les premiers à la vue à le dire, la Russie est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Nous qui avons combattu l'OTAN dès les années 1980, nous avions déjà à l'époque cette confrontation qui existait d'ailleurs aux frontières dans l'Europe centrale, qui existait en mer Noire, qui existait en Méditerranée et qui existait en Amérique latine. Rappelons-nous quand même les portées des sandinistes au Nicaragua, etc. Et le blocus et les tentatives d'isoler Cuba. Donc je ne pense pas que les terrains se sont déplacés. Je pense au contraire qu'on est en train de revenir aux fondamentaux. Il y a aujourd'hui, comme lors de la première guerre froide, deux blocs militaires et géopolitiques. Le bloc américain occidental et le bloc de l'Est. Le bloc américain occidental, il est constitué de puissances maritimes, les États-Unis avec derrière elles la France et les Émirats, l'Australie et le Japon. Et il y a un bloc de vieux empires continentaux, la Russie, la Chine et l'Iran. Et ces deux blocs commencent, de par la volonté même des Américains, à être aussi de nature idéologique. Quelle est la ligne de vie des États-Unis? C'est la démocratie libérale. C'est l'économie libérale, c'est la volonté évidemment d'être le modèle de la démocratie. Quel est le modèle justement du bloc de l'Est? C'est le monde multipolaire, c'est le respect des souverainetés nationales et c'est une économie qui n'est pas aux mains des multinationales ni aux mains des financiers propres individuels, mais qui est une économie dirigée par l'État, que ce soit en Russie. Merci. Avec des firmes d'État issues de l'ère soviétique, que ce soit en Chine avec l'économie qui est dirigée par le Parti communiste chinois et en Iran. Actuellement, d'ailleurs, il y a eu il y a quelques jours le sommet pour la démocratie organisé par Biden aux États-Unis. Les Chinois ont répondu de façon spectaculaire cette fois-ci. Ils ont publié un livre blanc où ils posent 1000 questions sur la soi-disant démocratie américaine. Mais surtout, ils opposent aujourd'hui leur modèle, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la démocratie de la dictature du prolétariat. Ils opposent leur modèle, ils opposent les voies russes, chinoises, iraniennes ou africaines en Guinée équatoriale, par exemple, vers la démocratie, au modèle américain du parlementarisme bourgeois. C'est le retour à la première guerre froide. C'est salutaire pour les peuples.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Fabrice Soir, expert pour l'ONG depuis Moscou. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
Le nombre de tankers transportant du gaz américain en direction de l'Europe explose. Le fait que le nombre de tankers transportant du GNL américain vers l'Europe se multiplie peut s'expliquer par le prix plus élevé du gaz en Europe qu'en Asie. Certains préfèrent payer plus cher en optant pour le marché spot, un modèle ultra-libéral, que de collaborer avec Gazprom à des tarifs avantageux. Les navires citernes transportant le gaz naturel américain en direction des côtes européennes deviennent de plus en plus nombreux, rapporte Bloomberg, au plus fort de la crise gazière sur le vieux continent. Selon les données compilées par l'agence, une vingtaine de tankers supplémentaires se dirigent vers l'Europe alors qu'une quinzaine avait été observée avant les vacances de Noël. 14 autres navires pourraient également emprunter ce chemin, mais attendent les ordres définitifs. Après leur envolée spectaculaire jusqu'à près de 2 200 dollars, 1 940 euros pour 1 000 m3, les prix du gaz en Europe ont chuté pratiquement de moitié suite à la diffusion d'informations sur un approvisionnement en gaz américain. Le directeur du Fonds russe de développement énergétique, Sergei Pekin, qualifie ce phénomène de purement économique. Il rappelle que le gaz naturel a coûté très cher en Asie pendant toute l'année, c'est pourquoi il se vendait plus tôt sur ce continent. Comme les prix européens affichés sont largement plus élevés que ceux asiatiques ces derniers temps, le GNL a été redirigé là où le prix est meilleur. M. Pekin insiste sur le zéro politique dans cette question, pointant un jeu classique économique. Le GNL est livré là où il se vend plus cher. Par exemple, si les prix montent demain jusqu'à 1 500 $ en Asie, les tankers changeront de cap de nouveau. Aucune politique, juste du business. D'autant plus que ce sont notamment les entreprises privées qui vendent et achètent cette matière privée et non les États. Ils travaillent pour en tirer profit. C'est pour dire que personne n'a privilégié personne. En d'autres termes, il s'agit d'un simple arbitrage entre les marchés européens et asiatiques, poursuit-il. Revenant sur la hausse spectaculaire des prix qui l'a précédée, M. Pekin estime que les Européens ont accordé trop d'attention à ce que Gazprom ne réserve pas de capacité supplémentaire du gazoduc Yamal Europe. L'information sur le changement de cap des navires chargés de GNL en direction de l'Europe a entraîné la baisse des prix du gaz après leur nouveau historique. Cette ascension est étroitement liée à l'absence de réservation par Gazprom de capacités supplémentaires du gazoduc Yamal Europe. La société russe dément les accusations de limiter ses exportations vers l'Europe et explique que certains clients comme la France et l'Allemagne ont déjà reçu tous les volumes établis dans leur contrat sans les prolonger, expliquant les raisons pour lesquelles les Européens ont choisi de payer plus cher que de signer de nouveaux contrats avec la Russie à des tarifs plus avantageux. Sergei Pekin fait valoir le fait que certains pays de l'Union européenne, dont l'Espagne, n'aient pas accès aux pipelines par lesquelles ils pourraient obtenir le gaz russe. Par conséquent, ils ont contraint de consommer du GNL américain. Quant à certains pays qui peuvent se faire livrer par gazoduc, ils utilisent un modèle ultra-libéral de commerce sur les marchés spot. C'est leur choix, pointe M. Pekin, tout en soulignant que la Moldavie, la Serbie et la Hongrie bénéficient actuellement de tarifs plus intéressants,
car ils ont conclu de nouveaux contrats avec Gazprom. Bien qu'elle ne fournisse pas en dehors de ses obligations contractuelles, ses tarifs sont réellement plus avantageux car conditionnés par les prix spot du gaz et du pétrole. Dans le cas de la Moldavie, Gazprom lui vend son or bleu pour 450 dollars, 397 euros, les 1000 mètres cubes, soit 2,5 fois moins cher que le prix spot du gaz à l'époque, d'environ 1000 dollars, 882 euros, a dit-il. L'Allemagne l'achète même encore moins cher, selon lui. La Pologne pourrait leur emboîter le pas l'année prochaine, quand son contrat touchera à sa fin. D'après les dires de M. Pikin, cette nouvelle sur l'augmentation du nombre de tankers n'influencera pas davantage les prix du gaz, car ils ont déjà chuté de moitié et aussi autour de 1000 dollars, un prix correct pour l'Europe ces derniers temps. Il ne faut pas s'attendre à un retour de 500 dollars pendant la saison de chauffage. Même la présence d'une centaine de tankers ne fera pas baisser les prix de manière significative. Et au sujet du Nord Stream 2, il confirme que sa mise en service pourra largement changer les prix. Comme son autorisation ne se fera pas avant le deuxième semestre 2022, selon l'Agence fédérale des réseaux, l'Europe devra vivre dans cette nouvelle réalité, conclut-il. La crise énergétique qui a touché l'Europe et provoqué une flambée des prix des énergies peut-elle être atténuée avec le lancement de Nord Stream 2? Les experts se doutent que les prix retombent au niveau d'avant la crise. Pour qu'il apparaisse en Europe, les prix en Europe doivent être comme les prix asiatiques et les prix asiatiques sont maintenant aussi élevés qu'en Europe. Ou bien ce gaz doit venir de l'Est, de la Russie, par le nouveau gazoduc Nord Stream 2. Il n'y a pas troisième option, souligne le directeur du Fonds russe de développement énergétique, Sergueï Pikin, qui insiste que selon ses estimations, tant qu'il n'y aura pas de nouveau volume de gaz, la situation restera la même. Elle ne changera pas jusqu'à la fin de la saison froide, ce qui signifie que l'Europe vivra dans cette nouvelle réalité où le prix du gaz reste autour de 1000 à 1200 dollars pour 1000 mètres cubes. Vladimir Dimitrov, analyste international du marché des ressources et de l'énergie, expose une vision similaire en ce qui concerne la crise du gaz en Europe. Les prix ne retomberont plus au niveau d'avant-crise, prévient-il. Mais ils devraient baisser avec le lancement du gazoduc. Il estime que les prix retomberont maximum à entre 500 à 700 dollars pour 1000 mètres cubes, mais pas en dessous. Pour Vladimir Dimitrov, il est hors la question que de possibles nouvelles sanctions contre la Russie touchent Nord Stream 2. À son tour, M. Sergueï Pikin a également avancé l'idée qu'il n'y a pas de place pour les sanctions dans les négociations sur Nord Stream 2. Dans le contexte actuel, j'en pense pas que quelque chose soit adopté aux États-Unis sous forme de sanctions supplémentaires. Les démocrates eux-mêmes ont spécifiquement présenté un projet de budget militaire qui ne prévoyait pas de sanctions contre la Russie, rappelle M. Pikin. De même, Igor Lushkov, du Fonds de la sécurité énergétique nationale, ne considère pas que les prix peuvent revenir au niveau d'avant-crise et estime que le gazoduc devrait être lancé vers mai ou juin 2022. Pourtant, le lancement ou non de Nord Stream 2 n'était pas la seule raison de cette augmentation des prix à la baisse, rappelle l'expert. Il est difficile de séparer l'un de l'autre, car un certain nombre de facteurs disparaîtront également vers l'été prochain. Par exemple, la production d'énergie éolienne a produit moins d'énergie tout l'été dernier que les années précédentes, sa propre production est en très forte baisse en Europe. D'ici l'année prochaine, les prix devraient baisser par rapport aux sommets atteints actuellement, mais ils resteront assez élevés, autour de 450 dollars pour 1000 mètres cubes, même pendant l'été, conclut-il.